Les mille et une nuits, tome 8, chapitre 16. Histoire de Soleyman Shah. Soleyman Shah, roi de Perse, avait un frère qu'il aimait beaucoup et en qui il avait la plus grande confiance. Ce frère, si cher à son cœur, mourut et ne laissa en mourant qu'une fille qu'il recommanda à la tendresse de son frère. Soleyman Shah, qui avait deux fils et n'avait pas de fille, aimait Chakatoun, c'était le nom de sa nièce, comme si elle eût été sa propre fille, et prenait le plus grand soin de son éducation. La princesse répondit à la tendresse du roi son oncle et surpassa beaucoup son attente. Douée des plus heureuses dispositions naturelles, elle acquit bientôt toutes les connaissances qui convenaient à son sexe et à son rang. Au talent de l'esprit, aux qualités du cœur, elle joignait tous les agréments du corps et pouvait passer pour la plus belle personne de son temps. Soleyman Shah, voyant sa nièce en âge d'être mariée, résolut de lui faire épouser un de ses fils. Il entra un jour chez elle, fit retirer toutes les femmes de sa suite, et lui dit en l'embrassant « La tendresse que j'avais pour mon frère s'est portée tout entière sur vous, et elle augmente celle que je dois avoir pour ma nièce. Je vous aime plus que si vous étiez ma fille, et je veux désormais vous appeler de ce nom. Vous connaissez les princes mes fils, ils ont été élevés avec vous. Je veux vous unir à l'un d'eux. Je vous laisse la maîtresse absolue du choix. Je vous donnerai pour époux celui que vous préférerez et je le reconnaîtrai pour mon successeur. » La princesse, étonnée de ce discours, se leva, baisa les mains du roi son oncle et lui répondit « Sire, vous avez sur moi tous les droits d'un père et peut-être de plus grands encore. Ma soumission pour vous est sans borne. Faites vous-même ce choix qui serait trop embarrassant pour moi. Prononcez et ma volonté suivra votre décision. » « Je suis flattée, reprit Soleyman Shah, de la confiance que vous me témoignez. Elle augmenterait ma tendresse pour vous, si cette tendresse pouvait augmenter. Puisque vous voulez que je dispose moi-même de votre main, je la donnerai au plus jeune de mes fils. Les rapports que je remarque entre vous deux me promettent l'union la mieux assortie. En l'unissant à vous et en lui laissant ma couronne, je fais tout à la fois son bonheur, le vôtre, et celui de mes peuples. » Chakatoun baissa les yeux en remerciant son oncle. Soleyman Shah fit célébrer quelques jours après le mariage de sa nièce avec le prince Malik Shah, son second fils, le désigna pour son successeur et lui fit prêter serment par les grands et le peuple. Balavan, l'aîné des fils de Soleyman Shah, aspirait à la main de sa cousine et se croyait assuré de monter sur le trône après la mort du roi son père. À la préférence que son cadet obtenait lui inspira la plus violente jalousie. Le respect et la crainte qu'il avait pour son père l'obligèrent de dissimuler d'abord. Mais ce feu renfermé dans son cœur n'en acquit que plus de force et de violence. La jeune reine accoucha, au bout de 9 mois, d'un garçon aussi beau que le jour. Cet événement mit le comble au désespoir de Balavan et le porta à commettre, pour se venger, les plus horribles forfaits. S'étant introduit la nuit dans l'appartement de son frère, il trouva la nourrice endormie et l'enfant qui reposait près d'elle dans son berceau. Il s'arrêta pour le considérer, et frappé de sa beauté, dit en lui-même « Cet enfant a toute la beauté de sa mère. Pourquoi n'est-il pas à moi? Je méritais mieux que mon frère la main de Chakatoun et la couronne. » Cette idée ayant allumé sa fureur, il tire son poignard et le plonge d'une main forcenée dans le sein de l'enfant. Il pénétra ensuite dans l'appartement de son frère, qui dormait près de son épouse, et lui perça le cœur. Il allait immoler pareillement la jeune reine, mais l'espoir de la posséder retint son bras. Pour satisfaire son amour et s'assurer l'impunité des crimes qu'il venait de commettre, il fallait y ajouter le parricide. Balavan, égaré, hors de lui-même, court à l'appartement du roi son père, mais la garde l'empêcha d'y pénétrer. Voyant alors qu'il ne pouvait échapper aux soupçons et aux châtiments qu'il méritait, il sortit du palais, prit la fuite et alla s'enfermer dans un château éloigné où il se fortifia. Le deuil et la désolation se répandirent bientôt dans le palais. La nourrice, en s'éveillant, veut allaiter le jeune prince et voit son berceau rempli de sang. Tremblante et éperdue, elle court à l'appartement du père et le trouve étendu sans vie. Ses cris réveillèrent la reine qui, se précipitant sur son époux et sur son fils, les embrasse tour à tour et veut les rappeler à la vie. Mais son époux a rendu les derniers soupirs. Son fils respire encore. Elle le prend dans ses bras, le réchauffe dans son sein et fait venir les plus habiles chirurgiens. Ils examinent la blessure, assurent qu'elle n'est pas mortelle et appliquent dessus les remèdes convenables. L'enfant ouvre bientôt les yeux, demande le sein de sa nourrice et paraît hors de danger. Le roi Soleiman Shah, qui était venu mêler ses larmes à celles de la jeune reine, fut étonné de ne pas voir son fils aîné partager la douleur commune et conçut des soupçons qui se changèrent en certitude aussitôt qu'il eut appris sa fuite. Détestant cet attentat, mais plus occupé de sa douleur que du soin de le venger, il fit faire à Malik Shah de magnifiques funérailles. Et voulut que l'enfant, échappé à la fureur de Balavan, portât le nom de son père. Le jeune Malik Shah devint alors l'objet de toutes les affections de son grand-père. Il s'occupait de son éducation conjointement avec sa mère, et ils se consolaient mutuellement en le voyant croître et se fortifier de jour en jour. Lorsque Malik Shah eut atteint l'âge de 5 ans, Soleiman Shah convoqua les grands du royaume. Il fit monter son petit-fils sur un cheval magnifique, lui fit rendre les honneurs qu'on avait coutume de lui rendre à lui-même, et le fit reconnaître solennellement pour son successeur. Cependant, Balavan, non content de s'être mis à l'abri du ressentiment et de la vengeance de son père, cherchait encore à lui faire la guerre. Il se rendit auprès du roi d'Égypte, se présenta à lui comme un prince infortuné que la calomnie et l'intrigue avaient obligé de quitter la cour du roi son père, et lui demanda du secours pour rentrer dans le royaume et reprendre le rang qui lui était dû. Le roi d'Égypte, touché de ce récit dont il ne soupçonnait pas la fausseté, le mit à la tête d'une armée nombreuse. Soleiman Shah, ayant appris cette nouvelle, écrivit au roi d'Égypte pour lui dévoiler les forfaits de Balavan et lui manda qu'il avait immolé de sa propre main son frère et son neveu qui étaient alors au berceau. La lecture de cette lettre fit succéder l'horreur à la compassion dans le cœur du roi d'Égypte. Il donna ordre de mettre en prison Balavan et offrit à Soleiman Shah de lui livrer son fils chargé de chaînes ou de lui envoyer sa tête. Le malheureux père, ne voulant pas ôter la vie à son fils, quelque coupable qu'il fût, et persuadé que tôt ou tard il porterait la peine de son crime, répondit au roi d'Égypte en le priant d'éloigner seulement de la cour Balavan. Le Soudan se conforma au désir de Soleiman Shah et résolut de lui faire à son tour une demande. Ce qu'il avait entendu dire de Shah Khatun, les éloges qu'on lui avait faits de sa beauté et de son esprit, l'avaient rendu amoureux de cette princesse. Il envoya un ambassadeur à Soleiman Shah pour lui demander sa main. Le roi de Perse fit part de cette demande à sa nièce et voulut savoir quels étaient ses sentiments. « Je suis étonnée, répondit-elle en pleurant, que mon oncle me fasse une semblable question. Je ne dois pas songer à prendre un époux après avoir perdu celui qu'il m'avait donné. Et comment pourrais-je m'éloigner de mon oncle et abandonner un fils qui fait toute ma consolation ?»« Vous avez raison, reprit Soleiman Shah, mais je dois vous faire part de mes craintes. Je suis vieux et je touche au terme de la vie. Je crains que bientôt vous et votre fils ne puissiez résister aux entreprises de Balavan. J'ai marqué au Soudan et aux autres rois mes voisins que Balavan avait immolé son neveu au berceau, et je leur ai caché que l'enfant vivait encore. Votre alliance avec le roi d'Égypte serait un puissant appui pour vous et pour ce fils qui doit me succéder. » La mère du jeune Malik Shah, touchée de l'intérêt de son fils, consentit à vaincre sa répugnance et parut disposée à suivre les conseils de son oncle. Il écrivit au Soudan que Shah Khatun se trouvait très honoré de son choix et qu'elle allait se mettre en chemin pour se rendre auprès de lui. Le monarque égyptien alla au-devant de Shah Khatun et trouva que sa beauté et son esprit surpassaient tout ce qu'on lui en avait dit. Il conçut pour elle l'amour le plus vif, lui donna le premier rang parmi les princesses qu'il avait déjà épousées et la combla d'honneurs et de présents. Il voulut aussi témoigner sa reconnaissance au roi de Perse en contractant avec lui la plus étroite alliance. Soleiman Shah, toujours occupé d'assurer de plus en plus la couronne à son petit-fils, le fit reconnaître de nouveau pour son successeur lorsqu'il eut atteint l'âge de 10 ans, et lui fit prêter encore serment de fidélité par ses sujets. Soleiman Shah mourut peu après cette cérémonie, et Malik Shah monta sur le trône de Perse. Aussitôt que Balavan eut appris la mort de son père, il résolut de faire valoir les droits que lui donnait sa naissance. Il assembla secrètement des soldats, se ménagea des intelligences dans les principales villes de la Perse et à la cour même du jeune roi, et promit de magnifiques récompenses à ceux qui se déclareraient en sa faveur. Lorsque tout fut préparé pour l'exécution de son dessein, il fit avancer ses troupes de différents côtés et s'approcha lui-même de la capitale. Les conjurés s'emparèrent de la personne du jeune Malik Shah et Balavan fut reconnu roi. En ôtant la couronne à Malik Shah, les principaux chefs de la conspiration ne voulurent point lui ôter la vie. Les serments qu'ils avaient faits à son grand-père et à lui-même étaient si récents qu'ils eurent horreur de tremper leurs mains dans son sang. Ils exigèrent de Balavan qu'il n'attenterait pas au jour de son neveu, mais qu'il se contenterait de le tenir en prison. Chakatoun fut bientôt informée de cet événement. Depuis qu'elle s'était séparée de son fils, elle était en proie à l'ennui et à l'inquiétude, et ne songeait qu'à l'objet de sa tendresse. Sa situation était d'autant plus pénible qu'elle n'osait confier son chagrin à personne. Soleyman Shah avait demandé autrefois au Soudan que son petit-fils était mort. Elle ne pouvait révéler le mystère de son existence sans donner lieu au Soudan d'accuser Soleyman Shah de lui avoir déguisé la vérité. La nouvelle de la révolution de Perse fut pour cette malheureuse mère un coup de foudre et l'affligea tellement qu'elle eut peine à cacher l'excès de sa douleur. Il y avait 4 ans que le jeune Malik Shah, plongé dans un obscur cachot, souffrait toutes les horreurs de la plus dure captivité. Les grands et le peuple s'entretenaient souvent de son malheur et plaignaient sa destinée. Balavan lui-même, depuis qu'il était paisible possesseur de l'Empire, avait pris pour cet enfant, échappé jadis à sa fureur, des sentiments plus humains. Il en parlait quelquefois et souffrait qu'on en parlât devant lui. Un jour que Balavan semblait regretter, en présence de son conseil, que la politique et la sûreté de l'État ne lui permissent pas de rendre la liberté à son neveu, un de ses vizirs prit la parole. Il lui représenta d'abord que l'élévation de Malik Shah et tout ce qui avait précédé ayant été l'ouvrage de son grand-père et l'effet d'une aveugle prédilection, on ne pouvait l'en accuser lui-même. Qu'il était trop jeune et la puissance du roi trop bien affermie pour qu'il pût exciter quelques troubles. Que l'état de langueur et de faiblesse où l'avait réduit sa prison ne permettait pas de croire qu'il jouit longtemps de la vie. Le vizir ajouta que pour concilier sa clémence avec sa sûreté, le roi pouvait envoyer son neveu sur une des frontières de l'Empire. Balavan approuva ce conseil et résolut de donner à son neveu le commandement d'une place frontière exposée aux attaques fréquentes des infidèles. Par là, il se montrait généreux, flattait les grands et le peuple, faisait cesser une compassion dont les suites l'inquiétaient et croyait se défaire du jeune prince. Balavan fit donc sortir Malik Shah de prison. Elle lui protesta qu'il avait oublié tout ce qui s'était passé, le revêtit d'une robe d'honneur et le nomma commandant de la frontière. Malik Shah partit, accompagné d'une faible escorte. À peine arrivé sur la frontière, il fut attaqué par les ennemis, abandonné des siens et fait prisonnier. Sa jeunesse, sa beauté, ne purent toucher les infidèles qui le renfermèrent dans un souterrain où étaient déjà entassés les uns sur les autres beaucoup de musulmans. La coutume des infidèles était de faire sortir de prison tous leurs captifs au commencement de l'année et de les précipiter du haut d'une tour. Le jour fatal étant arrivé, Malik Shah fut précipité avec les autres. Mais la Providence, qui veillait sur ses jours, le fit tomber sur les corps de plusieurs de ses compagnons d'infortune. Il fut seulement étourdi de sa chute et resta longtemps sans connaissance. Les infidèles ne faisaient point enlever les corps des malheureux qu'ils avaient précipités. Mais il les laissait devenir la pâture des oiseaux et des animaux carnassiers. Le jeune prince, étant resté évanoui toute la journée, revint à lui pendant la nuit. Il rendit aussitôt grâce à Dieu en mettant en lui toute sa confiance. Il s'éloigna des cadavres dont il était environné et marcha jusqu'à la pointe du jour. Épuisé de faim et de fatigue, il se nourrit de feuilles et de fruits sauvages et se cacha dans un bois. Il se remit en chemin la nuit suivante et continua de marcher ainsi toutes les nuits, et de se retirer le jour dans les bois ou dans les rochers, jusqu'à ce qu'il fût parvenu sur les terres du roi Sononcle. Il entra alors chez quelques paysans, auxquels il raconta, sans se faire connaître, la manière merveilleuse dont il avait échappé à une mort qui paraissait assurée. Ces bonnes gens admirèrent la providence de Dieu, furent touchés de compassion pour son état, lui donnèrent à boire et à manger, et le retinrent pendant plusieurs jours. Lorsque Malik Shah fut un peu rétabli de ses fatigues, il demanda aux paysans le chemin qui conduisait à la capitale de la Perse. Ils le lui indiquèrent et lui fournirent encore quelques provisions pour continuer son voyage, sans se douter que celui qu'ils avaient accueilli avec tant d'humanité fut le neveu du roi Balavan. Le jeune prince arriva près de la capitale de Perse, épuisé de faim et de fatigue, le corps maigre et décharné, le visage pâle et défiguré, les pieds nus et ensanglantés. Avant d'entrer dans la ville, il s'assit près de la porte, sur le bord d'un bassin qui recevait les eaux d'une fontaine. À peine avait-il pris haleine qu'il vit venir à lui plusieurs cavaliers. C'étaient des officiers du roi qui revenaient de la chasse, et voulaient faire désaltérer et reposer leurs chevaux. Dès qu'ils aperçurent le jeune voyageur, son mauvais équipage, ses vêtements délabrés, devinrent l'objet de leur conversation et de leur raillerie. Malik Shah, sans se déconcerter, s'approcha de ses officiers et leur dit « Permettez-moi, messieurs, de vous faire une question. Comment se porte le roi Balaban ?»« Es-tu fou ?» lui répondit un des officiers. « Étranger et de plus mendiant, ce qu'il paraît. Pourquoi demandes-tu des nouvelles de la santé du roi ?»«
C'est mon oncle, » reprit Malik Shah.
« Si tu n'es pas fou, » continua l'officier, « assurément, mon enfant, tu es un imposteur. Nous savons que le roi Balaban n'a plus de neveux. Il en eut un autrefois, mais il a été tué en combattant contre les infidèles. »
« Je suis ce neveu lui-même, » repartit Malik Shah. « Les infidèles ne m'ont point ôté la vie. » Le jeune prince fit alors tout le détail de ses aventures. Les officiers le reconnurent, lui baisèrent les mains, et le plus distingué d'entre eux lui dit « Vous êtes le petit-fils de notre dernier roi. Vous fûtes vous-même notre roi. Nous devons nous intéresser à votre conservation, faire des vœux pour votre bonheur et vous représenter ce que l'attachement et le respect nous inspirent. Lorsque Balaban, la prière de quelques hommes courageux et pleins de vertu, vous fit sortir du cachot où il vous tenait enfermé depuis 4 ans, et vous donna le commandement de la frontière, il savait que vous ne pouviez manquer de tomber dans les mains des infidèles, et il ne cherchait qu'à vous faire périr. Dieu vous délivra de ce danger d'une manière miraculeuse. Mais comment pouvez-vous retourner auprès de Balaban et vous remettre de nouveau sous sa puissance? Fuyez plutôt de ses états, et retirez-vous en Égypte auprès de votre mère. » Malik Shah remercia ses officiers de l'attachement qu'ils lui témoignaient et leur dit « Lorsque mon aïeul Soleyman Shah écrivit au roi d'Égypte pour lui accorder la main de ma mère, il ne lui dit pas que je vivais encore. Ma mère aura gardé elle-même sur mon existence le secret qui lui avait été recommandé, et je ne puis me faire connaître en Égypte sans compromettre la bonne foi et la véracité de ma mère. « Vous avez raison, prince, répliqua l'officier, mais fussiez-vous obligé de rester inconnu en Égypte et de vous attacher au service de quelqu'un, votre vie sera du moins en sûreté. » Malik Shah, ayant témoigné aux officiers qu'il allait suivre leurs conseils, ils lui donnèrent tout l'argent qu'ils avaient sur eux et les provisions qui leur restaient. Ils l'accompagnèrent quelque temps et prirent congé de lui en faisant des vœux pour sa conservation. Après un voyage long et pénible, Malik Shah arriva en Égypte. Il s'arrêta dans le premier village qu'il rencontra et se mit au service d'un de ses habitants. Son emploi était d'aider son maître dans la culture des terres et dans les autres occupations de la campagne. Cependant, Shah Khatun, n'ayant reçu aucune nouvelle de Perse depuis la déposition et l'emprisonnement de son fils, était en proie à la plus cruelle inquiétude et ne pouvait goûter aucun repos. Les plaisirs de la cour d'Égypte, les fêtes par lesquelles son époux cherchait à l'amuser, n'avaient aucun attrait pour elle. Elle était toujours triste et rêveuse, et n'osait confier au roi le sujet de son chagrin. Elle avait près de sa personne un esclave qu'elle avait amené de Perse et en qui elle avait beaucoup de confiance. C'était un homme intelligent, prudent et adroit. Un jour qu'elle se trouvait toute seule avec lui, elle lui dit « Tu es attachée à mon service depuis mon enfance. Tu connais mon amour pour mon fils. Tu sais que je suis condamnée à me taire sur ce qui le concerne et tu ne cherches pas à me procurer de ses nouvelles. » « Madame, lui répondit l'esclave, l'existence de votre fils a toujours été ici un mystère. Et quand il serait en ces lieux, vous ne pourriez le reconnaître sans vous exposer à perdre les bonnes grâces du roi, qui, d'ailleurs, ne vous croirait pas, puisqu'il passe pour constant que vous n'avez plus de fils. » « Tu as raison, reprit la reine. Mais quand il serait réduit à garder les troupeaux, quand je ne pourrais le voir, j'aurais du moins la consolation de savoir qu'il est vivant. Prends donc dans mon trésor tout l'or et l'argent dont tu auras besoin. Pars, et ramène avec toi mon fils, ou apporte-moi de ses nouvelles. »
« Madame, reprit l'esclave, je suis prêt à exécuter vos ordres. Mais je ne puis m'éloigner sans la permission du roi. Il voudra savoir le motif de mon voyage. Il faut en imaginer un que vous puissiez lui communiquer. Dites-lui qu'après la mort de votre époux, vous avez fait enfuir plusieurs coffres remplis d'or, d'argent et de bijoux, et que vous voulez m'envoyer chercher ce précieux trésor. »
La reine approuva ce conseil, fit part au roi de son prétendu dessein, et n'eut pas de peine à obtenir la permission qu'elle désirait. Le fidèle esclave partit aussitôt, déguisé en marchand. Arrivé dans la capitale de la Perse, il apprit que Malik Shah après être resté 4 ans en prison, en avait été tiré et qu'il avait été envoyé sur la frontière, qu'il avait été fait prisonnier et mis à mort par les infidèles. Pénétré de ces nouvelles qu'il n'osait porter à Chakatoun, l'esclave ne savait quel parti prendre. Comme il était toujours plongé dans cette incertitude, il rencontra un des officiers auquel le jeune prince s'était fait connaître lorsqu'il était assis près de la porte de la ville. Cet officier reconnut l'esclave qu'il avait vu souvent près de Chakatoun, lia conversation avec lui, lui parla de la reine et lui demanda ce qu'il venait faire en Perse. L'esclave répondit qu'il était venu vendre des marchandises et qu'il retournait en Égypte. « En ce cas, reprit l'officier, vous pourrez annoncer à Chakatoun ce que je vais vous apprendre de son fils. » L'officier raconta alors à l'esclave la manière dont lui et plusieurs de ses camarades avaient fait la rencontre du prince et comment il s'était échappé des mains des infidèles. « Dieu soit loué, dit en lui-même le faux marchand. Celui que je ne questionnais pas m'apprend ce que je désirais le plus d'apprendre. » Il pria ensuite l'officier de ne rien dire à personne de ce qu'il venait de lui découvrir. « Je vous le promets, lui dit l'officier, qui avait remarqué la joie qu'avait fait paraître l'esclave. Et je ne trahirai pas votre secret, quand même je saurai que vous n'êtes venu ici que pour apprendre des nouvelles de Malik Shah. » L'esclave, assuré de la bonne foi et de la générosité de l'officier, lui peignit l'inquiétude de Chakatoun et lui dévoila le mystère de son voyage en Égypte. L'officier, de son côté, lui apprit que le prince avait pris la route d'Égypte et qu'il l'avait accompagné jusqu'à tel endroit. Il lui peignit sa situation et lui donna tous les renseignements qui pouvaient l'aider à le trouver et à le reconnaître. L'esclave remercia de nouveau l'officier et partit aussitôt pour se rendre à l'endroit qu'il venait de lui indiquer. Il continua ensuite son voyage, demandant partout des nouvelles d'un jeune homme qu'il désignait et s'assurant, par des informations qu'il avait soin de prendre adroitement, de tous les lieux par où il avait passé. Arrivé ainsi dans l'endroit où était le prince, il ne trouva personne qui pût répondre à ses questions. Inquiet de cette circonstance, il remonta à cheval pour continuer sa route. Au sortir du village, il aperçut un âne attaché à un licol que tenait un enfant couché par terre et endormi profondément. Il le regarda en passant, sans autre sentiment que celui d'une piété naturelle, et dit en lui-même « Si celui que je cherche était réduit à la condition de ce malheureux qui dort sur le bord du chemin, comment pourrais-je le trouver ? L'âge, les fatigues, la misère ont sans doute changé tellement ses traits que je ne pourrais le reconnaître quand il serait devant moi. Hélas ! Je me suis abusé jusqu'ici. Toute ma peine, toutes mes démarches seront à jamais inutiles. » Occupé de ses réflexions, l'esclave s'abandonnait au désespoir et se frappait le visage. « Peut-être, dit-il ensuite, ce malheureux n'est pas, comme on le croirait d'abord, l'enfant d'un paysan. Il faut que je sache à qui il appartient. » En disant ces mots, il revient sur ses pas, descend de cheval et s'assied à côté de l'enfant. Il l'examine d'abord et le considère attentivement depuis la tête jusqu'aux pieds. Ensuite, il fait un peu de bruit et tousse plusieurs fois pour l'éveiller. « Jeune homme, lui dit-il lorsqu'il fut relevé et qu'il se fut un peu frotté les yeux, tu demeures apparemment dans ce village et ton père est un des habitants du lieu ?»« Je suis étranger, répondit le jeune homme. J'ai vu le jour en Perse et je ne demeure ici que depuis quelque temps. » L'esclave, charmé de cette réponse, fit ensuite plusieurs autres questions au jeune homme et reconnut bientôt celui qu'il désirait tant de rencontrer. Il se jeta à son cou, lui témoigna en pleurant la peine qu'il ressentait de le voir dans cet état, et lui apprit qu'il le cherchait par ordre de sa mère et à l'insu du roi son époux. Il lui ajouta aussitôt que sa mère devait se contenter de savoir qu'il était plein de vie et qu'elle ne pouvait le voir d'abord et le reconnaître pour son fils. Malik Shah, bien instruit des raisons qui faisaient agir sa mère, se flatta que, fixé près d'elle, il jouerait au moins d'un sort plus heureux. Il remercia l'esclave de son zèle et lui témoigna son impatience de partir. L'esclave retourna au village et acheta des habits et un cheval pour le prince, et ils prirent ensemble le chemin de la capitale de l'Égypte. Le sort qui poursuivait le jeune prince n'avait point encore épuisé contre lui tous ses traits. Un nouveau malheur vint bientôt éprouver sa constance. Comme ils approchaient du terme de leur voyage, ils furent assaillis par une troupe de voleurs qui les dépouillèrent et les jetèrent liés et garrottés dans une citerne où ils avaient déjà jeté d'autres malheureux qui étaient morts de faim. L'esclave, se voyant ainsi garrotté, entouré de cadavres, et ne doutant pas que leur perte ne fût assurée,
s'abandonnait à la douleur et versait des torrents de larmes. Le jeune prince, au contraire, l'exhortait à la patience et lui présentait l'inutilité de ses gémissements et de ses plaintes. «
Prince, lui dit l'esclave, ce n'est pas l'image de ma mort qui fait couler mes larmes, c'est votre sort, c'est celui de votre mère que je déplore. Après les malheurs que vous avez éprouvés, les maux que vous avez soufferts, faut-il que vous périssiez par une mort aussi affreuse et aussi inattendue ?»«
Tout ce qui m'est arrivé, répondit le prince, était écrit dans un livre dont rien ne peut être effacé. Le reste de ma destinée est pareillement fixé, et si le terme de mes jours est arrivé, aucune puissance ne pouvait le retarder. »
Deux jours et deux nuits s'étaient écoulés depuis qu'ils étaient dans cette affreuse situation. La faim avait presque entièrement épuisé leurs forces, et il ne leur restait plus qu'un souffle de vie, lorsque la Providence, qui veillait sur les jours du jeune prince, permit que le roi d'Égypte vînt en chassant jusque dans ces lieux. Il poursuivait alors une gazelle, qui fut prise près de la citerne. Un de ses gens, étant descendu de cheval pour égorger l'animal, entendit sortir de la citerne des gémissements. Il en informa le roi, qui s'avança avec sa suite, et ordonna qu'on descendît dans la citerne. Le jeune prince et l'esclave étaient prêts de rendre le dernier soupir. On les retira, on les détacha, et on leur fit avaler quelques liqueurs fortifiantes qui ranimèrent leurs forces et les rappelèrent à la vie. Le roi reconnut avec étonnement l'esclave attaché au service de son épouse, et lui demanda qui l'avait mis dans cet état. « Je revenais, dit l'esclave, suivi de plusieurs mulets chargés du trésor que la reine m'avait envoyé chercher en Perse. Des brigands nous ont assaillis, dépouillés et jetés pieds et mains liés dans cette citerne où nous aurions péri comme ceux qui y ont été jetés avant nous si le ciel, qui a eu pitié de nous, n'eût envoyé le roi pour nous sauver la vie. »
« Quel est ce jeune homme ?» demanda ensuite le roi.
« C'est, répondit l'esclave, le fils de la nourrice de la reine. Sa mère, peu fortunée, me prie de l'emmener avec moi pour vous servir. J'avais besoin de quelqu'un pour m'accompagner et je l'ai pris. Il est actif, intelligent et ses services pourront ne pas vous déplaire. »
Le roi d'Égypte prit le chemin de sa capitale, accompagné du jeune homme et de l'esclave, et leur demanda, chemin faisant, des nouvelles du roi Balavan et de quelle manière il gouvernait ses sujets.
« Balavan, répondit le jeune homme, maltraite les grands et le peuple, et personne ne fait des vœux pour la durée de son règne. »
Arrivé dans son palais, le roi alla aussitôt annoncer à la reine le retour de son esclave et lui raconta tout ce qu'il lui avait dit. Lorsqu'il fut à la circonstance de la citerne, la reine changea de couleur et fut sur le point de jeter un cri.
« Qu'avez-vous ? » lui dit le roi, qui s'aperçut de l'impression que ce récit faisait sur elle. « La perte de vos trésors peut-elle vous affecter à ce point ?»«
Prince, répondit la reine, je vous jure, par la gloire de votre empire, que je ne suis touchée que des maux que ce fidèle serviteur a souffert pour moi. Peut-être cette sensibilité vous paraîtra excessive, mais cet esclave m'est attaché depuis mon enfance, et il faut pardonner à mon sexe un peu de faiblesse. »
Le roi témoigna à son épouse qu'il était fâché de lui avoir fait un récit trop fidèle et se retira.
Chakatoun, se voyant seul, fit appeler son esclave. Il lui raconta tout ce qui était arrivé au prince depuis sa sortie de prison, les artifices de son oncle, sa captivité, à la manière miraculeuse dont Dieu l'avait soustraite à la mort, ce qui l'avait engagé à quitter de lui-même la Perse. Enfin, l'état dans lequel il l'avait trouvé et le bonheur qu'il avait eu de le reconnaître endormi sur le bord du chemin.
« Qu'a dit le roi ?» lui demanda avec empressement Chakatoun, « lorsqu'il a vu avec toi un jeune homme. N'a-t-il pas voulu savoir qui il était ? Que lui as-tu répondu ?»«
Madame, répondit l'esclave, j'ai tâché de seconder vos vues sans donner aucun soupçon de ce que vous voulez cacher. J'ai dit que c'était le fils de votre nourrice et qu'il désirait s'attacher au service du roi. »
Chakatoun approuva ce stratagème, loua le zèle et la fidélité de son esclave et lui recommanda de veiller sur son fils.
Le roi d'Égypte, de son côté, récompensa le fidèle serviteur de la reine, attacha le jeune homme à son service et lui confia le soin de l'intérieur du palais. Il le distingua bientôt de tous ceux qui l'approchaient. Et tous les jours lui donnait de nouvelles marques de sa bienveillance et de sa confiance. Chakatoun voyait souvent son fils, mais sans oser lui parler, et ne pouvait trouver assez d'occasion de le voir. Elle observait tous ses pas et se tenait souvent pour cela aux fenêtres de son palais. Elle vivait depuis quelque temps dans cette pénible contrainte, lorsqu'un jour qu'elle l'attendait pour le voir passer devant la porte de son appartement, ne pouvant résister au mouvement de la nature et à la tendresse maternelle, elle se jeta à son cou,
le baisa et le pressa contre son sein. Un des officiers de la chambre du roi, qui sortait dans ce moment, fut témoin de l'action de la reine et en fut on ne peut plus étonné. Il rentra chez le roi en tremblant et témoignant sa surprise par son air et ses gestes. « Qu'y a-t-il ? » lui dit le roi. « Et que viens-tu m'annoncer ?»« Prince, » répondit l'officier, « que puis-je vous annoncer de plus grave et de plus étonnant que ce que je viens de voir de mes propres yeux ? Ce jeune homme, amené récemment de Perse, est l'objet des amours de la reine. Je viens de la surprendre qu'il embrassait à la porte de son appartement. » Il serait difficile de peindre l'impression que ce peu de mots fit sur le roi d'Égypte. Il resta d'abord quelque temps immobile. Ensuite, il devint furieux, déchira ses habits, s'arracha la barbe et se frappa le visage. Tout à coup, il ordonna qu'on se saisît du jeune homme et de l'esclave qu'il avait amené et qu'on les renfermât dans un cachot. Il sortit de son appartement, se rendit chez la reine et lui dit en l'abordant « Votre conduite, madame, est vraiment digne de votre naissance et vous soutenez bien la réputation de sagesse et de vertu qui vous a fait rechercher par les rois des pays les plus éloignés. Votre caractère, vos inclinations naturelles se manifestent par les plus belles actions. » Le sultan, renonçant bientôt à l'ironie, accabla la reine d'un plus sanglant reproche, la menaça qu'il se vengerait d'une manière éclatante de sa perfidie et du traître qui le déshonorait, et la quitta brusquement en lui témoignant le plus profond mépris. Chakatoun était d'autant plus affligée de la colère du roi qu'elle croyait ne pouvoir se justifier. Elle n'avait jamais osé le désabuser sur la mort du jeune Malik Shah, et ce qu'elle aurait pu lui dire en ce moment n'aurait passé dans son esprit que pour une imposture. Dans cette extrémité, elle eut recours à Dieu et lui adressa cette prière. « Oh, toi que l'apparence ne peut tromper, toi qui connais les secrets des cœurs, c'est de toi que j'attends quelque secours, c'est en toi que je mets toute ma confiance. » Plusieurs jours se passèrent sans que le roi s'arrêtât à aucun parti. Il était triste et rêveur, et ne pouvait prendre aucune nourriture. Le supplice de l'esclave et du jeune homme ne lui paraissait pas satisfaire entièrement sa vengeance. La reine était encore plus coupable à ses yeux, mais il ne pouvait se résoudre à lui ôter la vie. Son amour pour elle semblait augmenter depuis qu'il s'était privé du plaisir de la voir. Il sentait qu'en la faisant mourir, il s'exposait aux plus affreux regrets et que peut-être il ne pourrait lui survivre. La nourrice du sultan, qui demeurait dans le sérail, fut alarmée du changement qu'elle remarqua sur son visage. C'était une femme prudente et expérimentée, qui passait pour connaître quantité de remèdes et de secrets, et en qui le sultan avait ordinairement beaucoup de confiance. Craignant cette fois d'aigrir son chagrin, ou qu'il ne voulut pas lui en découvrir la cause, elle résolut de s'adresser à Chakatoun, qu'elle voyait être dans le même état que le roi. « Qu'a donc le sultan ?» lui dit-elle un jour. « Il paraît accablé de tristesse et ne prend presque plus de nourriture. »« Je ne sais, » répondit Chakatoun. La vieille nourrice ne se rebuta pas de cette réponse, et fit tant par ses instances et ses caresses que la reine, après lui avoir fait promettre le secret, lui raconta son histoire et celle de son fils. « Dieu soit loué !» s'écria la nourrice en se prosternant. « Il ne sera pas difficile de calmer la jalousie du sultan et de le détromper. »« Ma mère, » lui dit Chakatoun, « je vous préviens et je vous jure par ce qu'il y a de plus sacré que j'aime mieux périr avec mon fils que de m'exposer en lui donnant ce nom à me voir soupçonner d'imposture et à m'entendre dire que je ne l'appelle ainsi que pour couvrir mon déshonneur. Ainsi, je crois que la patience et la résignation sont les seuls remèdes à mon malheur. Ma fille, permettez-moi ce nom, répondit la nourrice, touchée de la constance et de la délicatesse de la reine. J'espère que Dieu fera connaître la vérité sans vous exposer au danger que vous craignez. Je vais aller trouver le sultan et, s'il le faut, je me servirai pour le détromper d'un artifice innocent. Chakatoun remercia la nourrice qui se rendit aussitôt près du sultan. Elle le trouva plongé dans la plus sombre rêverie et dans le plus profond abattement. « Mon fils, lui dit-elle, après s'être assise auprès de lui et avoir gardé quelque temps le silence, l'état où je vous vois m'inquiète et me tourmente. Il y a plusieurs jours que vous n'êtes sorti et que vous n'avez monté à cheval. Si je savais ce que vous avez, je pourrais peut-être y remédier. » Tout mon mal, répondit le sultan en soupirant, vient d'une femme perfide qui a trompé ma confiance et perdu l'estime que j'avais pour elle. Chakatoun aime ce jeune persan arrivé ici depuis peu. Un de mes officiers les a vus s'embrasser. Mais je saurai me venger des coupables, et bientôt leur mort servira d'exemple à ceux qui seraient assez téméraires pour vouloir les imiter. Mon fils, reprit la nourrice, une femme infidèle ne mérite pas que vous vous affligiez à ce point. Vous devez punir, sans doute, mais il serait inutile, peut-être dangereux, de vous trop hâter. La précipitation engendre bien souvent le repentir. Les coupables sont entre vos mains. Ils ne peuvent vous échapper. Donnez-vous le loisir d'examiner attentivement cette affaire et de connaître à fond la vérité. Est-il besoin d'examen dans cette circonstance? Répondit le prince. L'amour de Chakatoun pour ce jeune homme n'est-il pas constant? Et n'est-ce pas elle-même qui l'a fait venir ici?
Cela est vrai, répliqua la nourrice. Mais vous ne pouvez savoir encore qu'une partie de la vérité.
Je connais un moyen assuré de pénétrer dans le cœur de Chakatoun et de tirer d'elle l'aveu de toute cette intrigue. Consentez seulement à employer ce moyen.
J'y consens de grand cœur, répondit le sultan. Que faut-il faire pour cela?
Vous connaissez, continua la nourrice, l'oiseau appelé Up, dont il est mention dans le chapitre du Saint Alcoran intitulé « La fourmi ». Cet oiseau, qui rapportait au plus sage des rois ce qui se passait à la cour de la reine de Saba et lui servait de messager, elle lui indiquait encore les sources d'eau cachées dans les entrailles de la terre. Il peut pareillement servir à révéler les plus secrètes pensées des hommes. Pour cela, il suffit de placer le cœur d'un de ces oiseaux sur la poitrine d'une personne endormie. Elle répond alors dans la sincérité de son âme à toutes les questions qu'on lui fait et dévoile ses plus secrets sentiments. Le sultan, enchanté de pouvoir découvrir aussi facilement ce qu'il désirait d'apprendre, dit à sa nourrice de se procurer promptement un de ces oiseaux et de lui en apporter le cœur. La nourrice se rendit d'abord chez la reine. Elle lui raconta ce qu'elle avait dit au sultan, la prévint qu'il viendrait près d'elle lorsqu'il la croirait endormie, et lui dit de répondre avec hardiesse et franchise à ses questions, tout en feignant de dormir. Elle se fit ensuite apporter une huppe, en prépara le cœur et le remit au roi. Dès que la nuit fut venue, Chakatoun témoigna qu'elle désirait se coucher plutôt qu'à l'ordinaire et fit semblant de dormir. Le sultan, en ayant été informé, entra dans son appartement, impatient de faire l'épreuve du secret. Il s'approcha doucement du lit, plaça légèrement le cœur de la huppe sur les seins de la reine et lui dit « Chakatoun, est-ce ainsi que vous récompensez mon amour ?»«
Comment » répondit-elle. « Quelle faute ai-je commise ?»«
N'avez-vous pas, continua le sultan, fait venir ce jeune homme pour satisfaire la passion que vous avez conçue pour lui ?»«
Il est vrai, répondit-elle, que parmi ceux qui vous approchent, je n'en connais aucun de plus aimable, de plus sage et de plus fidèle. Mais comment pouvez-vous croire que j'aime un esclave ?»«
Pourquoi donc, continua le roi, l'avez-vous embrassé ?»«
Parce que c'est mon fils, répondit la reine, une portion de mon sang, et que la tendresse maternelle m'a portée à me jeter à son cou. » Cette réponse jeta le roi dans le plus grand étonnement.
« Comment peut-il être votre fils ? » continua-t-il, « puisque ce fils a été assassiné par son oncle Balavan, ainsi que me l'a mandé le roi Soleiman Shah, son grand-père. »
« Il est vrai, répondit Chakatoun, qu'il fut assassiné, mais le coup n'était pas mortel, et il fut rappelé à la vie, parce qu'il n'était pas encore parvenu au terme de ses jours. »
Le sultan, assez satisfait de cette réponse, résolut de se servir du moyen qu'elle lui fournissait pour s'assurer de plus en plus de la vérité. Il sortit de l'appartement de la reine, fit sur-le-champ venir le jeune homme et chercha sur sa poitrine les traces de la barbarie de son oncle. La cicatrice était si bien marquée que tous ses doutes se dissipèrent. Il embrassa le fils de Chakatoun, le reconnut pour son propre fils et remercia le ciel de l'avoir préservé du crime affreux qu'il allait commettre.
« Vous voyez, ô roi, continua le jeune intendant en s'adressant au sultan Azad Part. Vous voyez que Dieu seul a préservé le jeune Malik Shah des dangers auxquels il semblait devoir infailliblement succomber. Votre esclave compte sur la même protection, encore plus que sur la bonté qui vous fait différer ma mort et sur tout ce que je puis vous dire pour ma défense. Oui, j'espère que Dieu fera éclater dans peu mon innocence et confondra la méchanceté de vos vizirs. » Alors, Azad Part, étonné de tout ce qu'il venait d'entendre, crut devoir différer encore la mort du jeune intendant et donna ordre de le reconduire en prison, mais en même temps il se tourna du côté de ses vizirs et leur dit « Ce jeune homme cherche à se soustraire à une mort certaine en vous accusant, mais je ne suis pas la dupe de cet artifice. Je connais votre attachement pour moi, votre zèle pour le bien de l'État et la droiture de vos intentions. Ainsi, ne craignez rien pour vous. Je prononce dès ce moment sa sentence. Faites dresser une croix hors de la ville et qu'un héraut parcourt les rues en annonçant à haute voix le supplice de celui qui a trahi ma confiance et abusé de mes bontés. » Les vizirs
furent transportés de joie en entendant le discours du roi. À peine avait-il achevé qu'ils prirent congé de lui, firent dresser la croix et publier la sentence. Ils passèrent ensuite la nuit dans les réjouissances, se félicitant mutuellement du succès de leur dernière ruse. Le lendemain, qui était le 11e jour depuis la détention du jeune ministre, les 10 vizirs se présentèrent de bonne heure chez le roi Azadbart et lui annoncèrent que le peuple était rassemblé en foule hors de la ville et attendait impatiemment l'exécution de la sentence qu'il avait prononcée et fait publier la veille. Le roi ordonna qu'on fît venir le jeune homme. Dès qu'il parut, un des vizirs ne put s'empêcher de dire « Scélérat, il est temps que tu renonces à la vie, et tu ne dois plus maintenant espérer de salut. »«
Qui peut, répondit le jeune homme, cesser d'espérer dans le Tout-Puissant. Toujours il se plaît à secourir l'opprimé. Souvent il attend pour le délivrer que le danger soit à son comble, et lui fait trouver la vie au milieu de la mort. L'histoire de cet esclave infortuné, condamné injustement à périr, et qui fut sauvé au moment même où il allait être exécuté, est une preuve frappante de cette vérité.
« Tu crois, dit le roi, m'ébranler par ta hardiesse et ton éloquence, m'abuser par tes paraboles et apaiser mon courroux par tes discours. Je veux bien imposer un dernier effort à ma patience. Parle encore une fois, mais sois court, et dis ensuite au monde un éternel adieu. »